Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
La mort, voilà ce que mes compères et moi nous avons réservé en guise de bonne année pour votre émission cinéma du mois de janvier. Un cadeau empoisonné, me direz-vous. Ne partez pas, car rien ne sert de vivre si l'on est prêt à mourir pour quelque chose, semble nous dire le chef-d'œuvre spirituel de ce mois, Une vie cachée. Ne partez pas, car l'on peut se dessouder avec bonhomie, semble nous dire l'autre chef-d'œuvre du mois, les tontons flingueurs. Ne partez pas, car notre mort est bien souvent le miroir de notre vie, une vanité sous nos yeux aveugles, semble nous dire notre troisième film, Cria Cuervos, la mort, cette sœur, disait saint François. Le grand écran, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour cette émission cinéma, nos deux compères fidèles au rendez-vous, Paul Dima, vous êtes toujours accompagnateur de retraite cinéma pour les Cotopaïs et co-animateur de ce Ciné-Parole, qui est donc un ciné-club en lien avec le cinéma l'ABC. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous et bonne année aussi.
Louis-Marie Solaire, qui s'endort, Louis-Marie, c'est le matin, faut vous réveiller.
Et c'est-à-dire que j'ai pas pris assez de café.
Producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse, émission cinéma de Radio Présence le mercredi à 19h. Bonjour Louis-Marie.
Bonjour Emmanuel,
Je vous ai déjà souhaité la bonne année, donc je ne recommencerai pas. Trois films, c'est vrai que ça fait un peu raide peut-être en cette rentrée, en tout cas c'est le fil rouge que j'ai trouvé, il y a certainement bien d'autres choses à dire. Si la mort est le point commun, il y a beaucoup de morts quand même dans les films, hein, donc on pourrait peut-être trouver ça à chaque fois. Si la mort est le point commun, il y a des angles bien différents, ne partez pas donc. Premier film, Une vie cachée de Terrence Malick. Donc c'est un film qui a été primé au Festival de Cannes l'année dernière, on y reviendra. Film donc de ce très grand réalisateur. Film assez long, 3 heures, mais un chef-d'œuvre, au dire en tout cas de bien des personnes qui l'ont vu. On va écouter un morceau de la bande-annonce. On n'a pas grand-chose, entre guillemets, à se mettre sous la dent, ce qui vous donnera, on l'espère, encore plus envie d'aller au cinéma, puisqu'il n'y a pas de VF, mais tout du moins, on écoute ça va nous mettre dans l'ambiance.
I had a dream. I thought that we could build our nest high up in the trees. Fly away like birds to the mountains. I can't swear loyalty to Hitler.
Do you think your defiance will change the course of things?
I can't do what I believe is wrong.
Alors, il y en a qui parlent anglais, donc on aurait pu continuer, mais on va être sympathique avec ceux qui ne parlent pas anglais. L'histoire. L'histoire, c'est l'histoire d'un homme qui a existé, qui s'appelle Franz Jägerstätter, qui est un paysan autrichien qui refuse de se battre aux côtés des nazis. Il refuse de prêter serment, allégeance en fait au nazisme, puisque c'est ce qu'il fallait faire quand on rentrait dans l'armée hitlérienne. Un homme qui est reconnu coupable de trahison par le régime et va s'en suivre un calvaire qui va vivre avec une grande liberté. Cet homme a été, et on reviendra dessus, donc béatifié par l'Église, c'était en 2007, donc par le pape Benoît XVI, béatifié et reconnu martyr, une forme de martyr de la conscience. Louis-Marie, si on commence comme toujours par l'histoire, est-ce que vous pouvez nous guider sans peut-être tout révéler? Est-ce possible?
Oui, c'est possible, parce que en fait, le Terrence Malick monte son film sur une dualité, l'ombre, la lumière, tout est montré d'une couleur, d'une tonalité qui est sombre. Alors ça peut être dans les images, dans la musique, dans les rapports entre les gens, et ce qui est la lumière. La lumière, on l'a bien compris, c'est la position de cet homme.
Alors juste sur l'histoire, est-ce que vous pouvez juste rester sur le fil de l'histoire?
Ah ben,
parce que
l'histoire
prend son temps aussi de montrer le paysage,
exactement,
une vie paysanne extraordinaire.
Terence Malick prend son temps, montre comment cet homme a rencontré sa femme, comment ils ont bâti une famille, comment ils étaient heureux dans les montagnes autrichiennes.
En choisissant d'aller vivre dans un nid d'aigle. Hein.
Exactement.
C'était retiré du monde pour être heureux en famille.
Et d'ailleurs, on ne voit du monde et de la guerre en particulier qu'un avion qui passe au-dessus, voilà, ce qui signale qui montre qu'on est en période de guerre. Puis arrive justement ce moment où ben il va devoir partir dans l'armée allemande, et c'est là où on va verser dans le côté sombre et dans tout ce que va porter cet homme pour ses convictions, et que sa femme va accompagner parce qu'elle aime cet homme et qu'elle aime ce qu'il est.
Donc sa femme Fanny, et puis donc ils ont des enfants. L'histoire, en fait, on peut la raconter, parce qu'à partir du moment où il est mort martyr, qu'on a parlé de la mort en introduction, on se doute qu'il va mourir. Cet homme va vivre un vrai calvaire, être torturé, finir par être guillotiné. Si on reste toujours sur l'histoire, Paul, qu'est-ce que vous voudriez rajouter? J'avoue que je ne l'ai pas vu, mais les retours que j'ai eus, c'est que, étonnamment, les gens disaient aussi que c'est une ode à la création, comme si au milieu de ce drame, on voyait aussi la splendeur du monde.
Oui, alors ça c'est le propre aussi du regard du réalisateur de Terence Malick. Il a un regard sur la nature qui dit plus que regardez comme c'est beau, ou regardez les montagnes, les arbres. On trouve ça fréquemment dans ses films, dans un de ses précédents d'ailleurs. En contre-plongée, le regard suit les branchages et s'élève vers le ciel. Et les montagnes sont le lieu aussi de la montée vers le ciel. Alors un ciel qui peut être menaçant, il y a beaucoup d'orages, ça s'assombrit, mais en même temps, il y a des mouvements de caméra qui volent un petit peu comme un oiseau libre, en liberté, sur ces grands espaces, la nature, qui est belle et qui inspire. Alors c'est une histoire inspirée, dit le réalisateur, d'une histoire réelle. Et alors on peut entendre inspirer au double sens du mot, c'est à partir de. Et c'est ce que lui inspire aussi, à lui comme réalisateur, cette histoire-là. Et la durée du film, donc 2h53, c'est pour nous faire partager de l'intérieur, et de façon un peu éprouvante aussi, mais en même temps une traversée des ténèbres vers la lumière, le parcours de cet homme qui, par conviction humaniste et croyante, hein, c'est les deux à la fois, de ne pas pactiser avec ce qui lui semble être le mal. Il ne veut pas.
Il a des conversations d'ailleurs, avec des prêtres, avec même un évêque.
Avec le prêtre de sa paroisse qui lui dit « mais pense à ta famille, fais attention ». Et l'évêque qui lui dit « souviens-toi de la parole de l'apôtre, soyez soumis aux autorités, etc. » Et à la sortie de son entretien avec l'évêque, il dit « je pense qu'il a eu peur que je sois un espion et il a protégé son église. » Donc il l'excuse. Son héros, Franz, ne rentre jamais dans le cycle de la violence. Voilà. Et ça a beaucoup marqué les spectateurs, puisque on l'a vu.
Le ciné-parole, pour une fois, était mardi dernier.
Était donc mardi dernier. Voilà, parce que ce film maintenant n'est plus programmé. Et il y a un jeune dans la salle qui a posé comme question, parce qu'on veut lui faire signer un papier où il prête allégeance à Hitler. Et ce jeune a dit, mais pourquoi il n'y a pas signé? Parce que tout le monde lui dit, mais on s'en fout de la signature, tu penses autre chose, mais signe, et puis tu seras tranquille et tout. Et il se tient à plusieurs reprises dans son parcours donc de maltraitance, et c'est un mot un peu faible pour dire ce qui se passe. Non, je ne signerai pas.
Alors, La Croix, le chef-d'œuvre de Terence Malick, apporte une réponse saisissante au tragique destin de Franz Jägerstätter, lumière fragile qui brille au cœur des ténèbres. Le Nouvel Observateur, immense film, Le Parisien, une œuvre bouleversante. Télérama, c'est bien vers la lumière et une forme d'élévation spirituelle, non de désespoir, que tant ce film pourtant funeste, éloge d'un engagement extrême. On peut dire aussi que l'histoire de cet homme, Franz Jägerstätter, est restée largement oubliée. Pendant des années, c'est un sociologue américain, ai-je vu, Gordon Zahn, qui a publié une biographie de lui. C'était en 1964. Et puis, l'histoire s'est fait connaître. Et cet homme donc, a été reconnu comme martyr et reconnu comme, comme vénérable et après bienheureux par l'Église. J'ai vu aussi qu'à l'occasion de sa béatification, était présent sa femme, voilà, qui pendant des années après la guerre a dû continuer à faire face aux moqueries en disant que son mari était un hurluberlu et un lâche. Y aurait des choses à dire peut-être aussi sur, sur la position de l'Église pendant la guerre, l'Église allemande. Je ne sais pas si vous avez lu des choses là-dessus, moi j'en ai lu une ou deux.
Oui, et qui ne sont pas forcément très connues non plus. Hein. Il y a le reproche facile et à l'emporte-pièce de dire « la papauté a pactisé avec l'Allemagne nazie pour protéger ses intérêts ».
Ça, c'est pour Pie XII, oui.
Voilà, et que Pie XII a volontairement... mis sous le boisseau ce qui se passait, c'est pas tout à fait juste.
C'est un petit peu plus compliqué.
C'est plus complexe.
Il vaut mieux parfois se taire.
Oui.
Pie XII qui a été reconnu juste parmi les
juste
nations.
Juste parmi les nations par les Juifs. Hein, qui, voilà. Et de fait, l'Église a organisé un certain nombre de réseaux d'exfiltration de Juifs pour qu'ils ne soient pas pris par le régime hitlérien. Nombre de pasteurs et de prêtres allemands ont été eux-mêmes torturés et mis à mort parce que entrant en résistance. Ça aussi, il faut le prendre en compte, c'est pas inventé. Ce qui est intéressant dans l'histoire du film, c'est que, et c'est pris comme argument par ces bourreaux, par le système hitlérien, toute façon... Ce qui se passe ici, si tu crois qu'on s'en préoccupe en haut lieu, on n'est même pas au courant et ta démarche ne sert à rien.
Que pèse ton acte, ça c'est...
Et ça restera ignoré de tous. Voilà, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Tu rêves de sauver le monde et ça ne changera à rien. Et il reste fidèle. Et je dirais que le film, d'une certaine façon, et par son, tout ce qu'il développe, est le contre-pied radical... De cette parole qui émerge et qui fait sens aujourd'hui. Qui fait sens.
À propos de l'Église, j'ai lu quand même que le cardinal Schönborn et puis Mgr Walter Mixa, qui est évêque aux armées, auraient dit, au fond, tous les chrétiens auraient dû refuser de servir. Ainsi, le régime serait devenu impuissant. En tout cas, c'est ce qu'il avait dit au moment de la béatification. Alors, pourquoi c'est un si grand film? Est-ce qu'on peut parler de chef-d'œuvre, Louis-Marie?
Oui, on peut parler de chef-d'œuvre. Terrence Malick est un réalisateur qui est quand même particulier, hors du commun. S'il y a un dénominateur commun au réalisateur, lui n'en a pas un. Hein. Il a une carrière sur laquelle on pourra revenir particulière. Et il a une façon d'écrire et de montrer les choses qui n'appartiennent qu'à lui.
Si vous deviez la caractériser de cette manière.
C'est compliqué. Paul a parlé des images, parlant de ces images, de ces façons de montrer certains moments qui correspondent au bonheur. On est dans l'Éden, on est au paradis, à certains moments, quand on est sur cette montagne au début du film, avec cet homme et cette femme qui ont choisi d'aller... vivre là et ils sont bien. Alors ces plans, cette façon de filmer la nature, ces contre-plongées.
C'est lent aussi, non?
C'est très lent. Terrence Malick laisse le temps.
C'est le temps de la vie, ce qui est assez rare au cinéma quand même.
Exactement. Et il est atypique dans le sens où la plupart de ses films sont très longs. Il a peu de films d'une durée raisonnable. Les siens dépassent le plus souvent 3 heures. Et parce que, vous l'avez dit, il laisse la vie, il montre la vie. Alors ça peut agacer, ça agace certains spectateurs, mais ça reste une façon et un langage cinématographique très particulier. Et c'est cette façon de montrer les choses. Alors de temps en temps, on peut penser que c'est un peu surligné, certains moments, mais c'est cette volonté, en tout cas pour ce film-là, de montrer la dualité. Dans ce film-là, on parle allemand et on parle anglais. Mais quand c'est l'allemand, c'est la parole dure, c'est la parole de la violence, des trivialités. Alors que l'anglais, c'est le moment où on échange, où l'on prie. Après, bon, on parle évidemment, c'est plus simple quand on montre la lumière, le côté lumineux, le côté sombre des choses dans les images, les moments musicaux, ces moments aussi de retrouvailles après que Franz soit parti une première fois à l'armée, où il y a un montage plutôt haché, alors que jusque-là, c'était fluide. Voilà, il faut... c'est un metteur en scène, c'est un réalisateur pour lequel il faut prendre le temps de regarder les images.
Oui, et ce rapport au temps joue sur le fait que Terrence Malick veut faire ressentir et non pas expliquer ou comprendre. Le but de son cinéma, c'est pas de faire du verbiage ou de faire un documentaire descriptif, c'est de faire rentrer, éprouver dans le temps tout le cheminement de ces personnages de Franz et Fanny.
Voilà, Une vie cachée de Terrence Malick qui a donc été, c'était le prix du jury œcuménique, c'est ça,
oui,
2019. Donc cet homme né en 1907
à Cannes,
né en 1900, Franz Jägerstätter, donc 1907-1943, tué par le régime nazi à 36 ans. Et je le disais, donc sa veuve était là le jour de sa béatification et elle était habillée toute de rouge. La vie cachée de Terrence Malick. On fait une première pause musicale, c'est justement un extrait de la musique de ce film, et puis on vous retrouve pour entrer dans un tout autre registre, puisqu'on va parler des Tontons Flingueurs.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est pour rappel donc le thème de l'émission, enfin le titre de l'émission Vivante Église de ce matin, son vendredi matin. Nous retrouvons nos deux compères cinéma avec bonheur. Paul Dima, animateur de retraite cinéma pour les Cotopaïs et Centres Jésuites dans le Sud-Ouest, et Louis-Marie Seller, producteur de l'émission de cinéma de Radio Présence, n'oubliez pas l'ouvreuse. Deuxième film, donc rien à voir, on va dire en tout cas rien à voir quant au ton, puisqu'on a choisi, on a même dit que c'est un chef-d'œuvre humaniste, alors il va falloir arriver à nous justifier, mais au moins on rigolera jusqu'au bout. On s'est dit qu'il fallait se faire du bien quand même aussi en cette rentrée, c'est donc les Tontons Flingueurs. On va écouter la bande-annonce qui ne manque pas de piquant aussi, et je citerai juste quand même une ou deux critiques que j'ai retrouvées qui datent de l'époque de la sortie, qui n'étaient pas dithyrambiques. Libération, c'est dans le genre film de détente, et La Croix, une très honorable symphonie en culte majeur, et puis c'est devenu un film culte.
Les débordements de la jeunesse moderne, ses multiples excès de toutes sortes, ont fini par alerter l'opinion.
Résultat, elle finira au tapin. Et ce sera de ta faute.
Si c'est notre pognon qui sont en train d'arroser les petits comics, ça va saigner.
Le cinéma français se devait de réagir et de donner l'exemple. Cet exemple aurait mérité de s'intituler « Discours de la méthode », mais le titre était déjà pris. Il s'appelle donc « Les tontons flingueurs », ce qui veut dire sensiblement la même chose.
Vous êtes bien l'oncle Fernand.
Vous êtes le gaucho, le centaure des pampas, l'oncle légendaire.
Ah, tu sais combien ça laisse une roulette?
60% de velours.
Et sur le plan des emmerdements, 36 fois la mise, hein?
Quand ça change, ça change. Faut jamais se laisser démonter.
Pour réaliser ce monument éducatif, les producteurs, conscients de leur mission, se sont adressés au metteur en scène du Monocle Noir et aux auteurs de Le Cap se rebiffe et de Mélodie en sous-sol, c'est-à-dire à des pédagogues en béton. Les interprètes ont été également choisis en raison de leur bonne manière.
Touche pas au Grisby, salope !
Ah, ces metteurs n'ont quand même pas la bonne.
Alors on écoutera d'autres extraits, j'espère que les auditeurs sont pas choqués, en tout cas s'ils sont choqués pour ça, il faut absolument qu'ils voient ce film, parce que normalement, tout être normalement constitué devrait se tenir les côtes en regardant ce type de film. Les tontons flingueurs, l'histoire, donc un certain Fernand Naudin qui, malgré son physique, nous dit-on, mène une vie tranquille et sans histoire, mais ça n'a pas toujours été le cas par le passé, je vous laisserai compléter. Louis-Marie reçoit un coup de fil pour accueillir les derniers soupirs d'un ami de jeunesse, Louis dit le Mexicain. Il lui confie ses affaires louches, en même temps que la garde de sa fille Patricia. Et comme le disait la bande-annonce, et là les ennuis commencent. L'histoire, Louis-Marie.
Bah, il est retiré des voitures, Fernand. Hein. Ça fait longtemps qu'il s'occupe de machines agricoles à Montauban.
À Montauban, c'est pour
Montauban,
ça aussi qu'on en parle.
Ne devrait jamais quitter Montauban.
Voilà, et reconverti dans le négoce de matériel agricole, alors qu'autrefois, c'était un truand.
Oui, c'est un truand. Voilà. Ouais. C'est pour ça qu'il connaît Louis le Mexicain. Et comme ils ont été longtemps amis, ils ont fait plein de choses ensemble. Louis le Mexicain, quand il a repris ses affaires à Paris et qu'il est... Il est atteint d'un mal incurable, lui demande de venir pour s'occuper de ses affaires, mais surtout pour s'occuper de sa fille. De sa fille à lui, le Mexicain, voilà, parce que qui ignore complètement.
Qui ignore complètement, qui vit dans une maison bourgeoise et qui fréquente un charmant garçon. Vous pouvez dire un tout petit mot quand même des acteurs, Louis-Marie, avant qu'on parle du reste.
Ah ben, la brochette d'acteurs, sont les acteurs qui ont...
1963 aussi, on a oublié de le
dire. Qui ont tourné beaucoup...
Georges Lautner aussi, on a oublié de le dire.
Qui ont tourné beaucoup avec Lautner, justement. Bernard Blier, qui est sans doute celui qui a tourné le plus des tontons flingueurs. Il a dû faire 9 films avec lui. Et puis il y a Lino Ventura, et puis il y a Francis Blanche, et puis il y a Valentino Valentini, parce qu'il ne faut pas oublier que le film est une coproduction franco-germano-italienne, ce qui explique la présence d'acteurs italiens.
Alors les personnages, juste, Lino Ventura, c'est donc le personnage principal.
C'est Fernand Naudin.
Voilà, il y a Claude Riche aussi.
Claude Riche qui fait le petit ami de Patricia.
Le petit ami de Patricia.
Qui fait dans la musique, dans la recherche de musique expérimentale.
Oui, c'est ça.
La musique concrète.
Ils ont tous des gueules quand même, il faut le dire aussi. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'ils ont été choisis, mais...
Ah ben, c'est...
C'est filmé d'une certaine manière, ça aide à avoir les gueules aussi.
Aussi. Il faut penser que le film, finalement, au départ, c'était l'adaptation, ça devait être un film sérieux de gangster, c'est l'adaptation d'un bouquin de Simonin, si mes souvenirs sont bons, et ça devait être Grisby or Not Grisby, c'est le titre du bouquin, et ça devait être un film de gangster traditionnel.
Une trilogie.
Ils ont changé le ton. C'est la première collaboration de Lautner et Audiard, qui sera son scénariste et oui. Le scénariste et le dialoguiste attitré de Lautner. Et là,
donc c'est des dialogues de Audiard.
Ah oui, les dialogues sont de Audiard et c'est
des bijoux.
Ce sont des bijoux. Et en fait, il faut penser que le film est avant tout l'interprétation de ces dialogues, plus que l'histoire elle-même. L'histoire, finalement, elle est secondaire. Ce qu'on attend, c'est ce que vont dire les personnages. Alors c'est ça qui est important.
Avant d'aller plus loin, si ça ne vous embête pas, Paul, et de vous donner la parole, on va écouter justement un autre extrait. C'est cet extrait, si je ne me trompe pas, c'est notre personnage principal, donc joué par... aidez-moi la voilà que je m'y perds.
Lino Ventura.
Voilà, Fernand Naudin qui commence à régler ses affaires, puisque pour régler ses affaires, il a en face de lui voilà, d'autres qui ne veulent pas aller plus loin, on redira leur nom peut-être, enfin qui ne veulent pas que ce soit lui qui prenne les choses en main, on redonnera leur nom après cet extrait, cet extrait savoureux.
Bien. Et maintenant à nous. Dans votre secteur, pas de problème, le jeu n'a jamais aussi bien marché.
Que tu dis ?
Ce qui vous chagrine, c'est la comptabilité. Vous êtes des hommes d'action, je vous ai compris. Et je vous ai arrangé votre coup.
T'arrange, si on n'était pas d'accord.
Tu vas voir que c'est pas possible. J'ai adopté le système le plus simple. Et regarde. On prend les chiffres de l'année dernière et on les reporte.
Arrête-toi.
L'année dernière, on a battu des records.
Eh ben, mais vous les égalerez cette année. Vous avez l'air en pleine forme, là. Gai, entreprenant, dynamique.
Et en plus, il nous charrie, c'est complet.
Pascal.
Oui, monsieur Fernand.
Tu passeras l'encaissement chez ces messieurs sous huitaine.
C'est ça, mais si on paye pas, tu nous butes.
Messieurs Raoul.
Bien. Messieurs, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention.
Bastien, compagnie ces messieurs.
Toi, Raoul Volfoni, on peut dire que tu en es un.
Un quoi?
Un vrai chef.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible. Je voulais être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. Je vais le travailler en férocité, faire marcher à coups de latte. À ma pogne, je veux le voir. Et je vous promets qu'il demandera pardon. Et on vient à vous!
J'avais oublié les 10% d'amende pour le retard.
Voilà, donc ça se finit, il se prend un point.
Oui, parce qu'il faut qu'il avait oublié de dire les 10% d'amende parce qu'il y a des retards dans le paiement.
Il y a des retards dans le paiement, voilà. Ouais. Donc les autres, c'est les frères Volfoni, Raoul et Paul, qui sont assez formidables.
Incarnés par Bernard Blier. Raoul et Paul, c'est Jean Lefebvre.
Jean Lefebvre.
Alors, magnifique. Paul, qu'est-ce que vous avez envie de te dire sur ce film ? Difficile d'arriver à parler normalement après avoir tant rigolé.
Alors, c'est devenu un film culte. Et il se bonifie en vieillissant. Louis-Marie racontait tout à l'heure qu'il avait assisté à une représentation. Tout le monde riait avant les répliques elles-mêmes, parce que...
On les connaît.
Connu par cœur C'est vrai que c'est...
Ça fait partie du patrimoine français. C'est presque les bonnes blagues qu'on attend.
Oui, incontestablement. Il fait partie de cette culture populaire française. C'est indéniablement. Et puis...
Alors, c'est un humour de dérision, mais avec classe aussi.
Voilà,
c'est-à-dire, c'est des faux truands.
Ils sont d'ailleurs en costard pour la plupart.
Ils sont en costard. Ils font plutôt bourgeois, sympathiques et tout ça. Ce qui ne les empêche pas de manier avec dextérité les pistolets, avec silencieux, etc. Mais bon,
et la tarte aussi, les bons pifs, comme ils disent, donc, un bon pif.
C'est pour s'amuser, mais c'est surtout, c'est fait avec classe. C'est fait avec classe, même juste avant la cérémonie du mariage, il est en queue de pie, Fernand, et il faut qu'il aille régler les derniers comptes, et c'est la baston, et ça mitraille à tout va.
Et puis on voit bien que c'est du deuxième, troisième degré.
Oui,
de
c'est ça,
façon, c'est...
Et puis peu importe, on s'en amuse, mais alors en même temps, il y a des répliques qui font preuve, les répliques d'Audiard, d'une culture très classique, historique, littéraire, il cite des auteurs, etc. Enfin bon, c'est du grand style. Et ça annonce, de façon un petit peu caricaturale, la mort du cinéma.
Du cinéma de
qualité française.
La qualité française.
Quand vous y allez, alors expliquez-vous. Justifiez-vous.
De Carnet à Delannoy, en fait, c'est ça, d'Autant Lara. Marcel Carnet, Jean Delannoy, Claude Autant-Lara, Henri-Georges Clouzot, qui sont au demeurant de grands metteurs en scène. Mais c'était une façon de tourner, une façon de faire du cinéma qui... commençaient à dire... Alors, ils avaient eu déjà...
Pourquoi les... Parce que c'était la prime au dialogue à l'époque et c'est ça qui va disparaître, à vous entendre ?
Non, c'était la façon de tourner les films, la façon de montrer, la façon de mettre en scène, la façon de raconter des histoires.
Mais alors, précisez, d'ailleurs, quelle était cette façon ?
D'ailleurs, la nouvelle vague était en train de... Oui, était, oui. C'est la de même époque, la nouvelle vague, et taillait des coupières à ce cinéma. C'était une façon un peu, comment dire...
Académique,
en poulet, de raconter des histoires. On voulait plus être plus.
C'est assez théâtral en tout cas quand on le regarde. Hein, oui.
C'est ça aussi. Hein, quand on voit Jouvet jouer, même si Carnet et le drôle de drame de Carnet, film de 36, reste un chef-d'œuvre aussi du cinéma français. Néanmoins, on ne ça vieillit. Il m'ira 36, je ne fais pas référence à ce film-là en particulier, mais les films plus récents, et puis il y avait les films de KPDP aussi, ça commençait, c'est une façon de montrer les héros qui étaient un peu désuètes maintenant, il faut bien l'avouer, à cette époque.
J'ai découvert un festival en préparant cette émission, donc le Festival International du Film Culte. Vous connaissez ça, vous, Louis-Marie ?
Non.
Voilà, Trouville-sur-Mer. Premier prix, donc les Tontons Flingueurs, c'était en 2016. On va écouter un deuxième extrait pour continuer à se régaler. Et puis après, vous nous expliquerez pourquoi c'est vraiment un chef-d'œuvre.
Aventurier, n'est-ce pas ? Vous savez combien ça va nous coûter ? 2000 francs, nouveau.
Il y en a qui gaspillent et il y en a d'autres qui collectent. Qu'est-ce que vous dites de ça ? Hein ? Pour encore des sandwichs à la purée d'anchois, ils partent bien ceux-là. Voilà vos encaissements en retard. Il y a gravé d'une amende en plus. Les Wolfenis ont essayé de me flinguer.
Oui, maître. C'est pourtant pas leur genre.
Oui, bah ça prouve qu'ils ont changé de genre. Voilà.
Quand ça change, ça change. Faut jamais se laisser démonter.
Vous croyez qu'ils oseraient venir ici ?
Con, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît.
Dites-moi, mon brave.
Monsieur ?
Il est là, votre patron ?
Qui demandez-vous ?
Monsieur Fernand Nodin.
Monsieur Fernand. Fernand l'emmerdeur, Fernand le malhonnête. C'est comme ça que je l'appelle, moi.
Si ces messieurs veulent bien me suivre.
Allez, comment ? Alors, c'est bien dit.
Si vous voulez vous donner la peine d'entrer.
Bougez pas ! Les mains sur la table. Je vous préviens qu'on a la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours.
Si ces messieurs veulent bien me les confier.
Quoi ?
Ah, mes enfants, nous sommes en panne de sandwich. Si c'est mon oncle, si les amis veulent danser.
Alors, vite, messieurs. Quelqu'un pourrait venir, on pourrait se méprendre et on jaserait. Nous venons déjà de frôler l'incident.
Tu sais ce que je devrais faire ? Rien pour le principe. Tu trouves pas que c'est un peu rapproché ?
Je te disais que cette démarche ne s'imposait pas. Au fond, maintenant, les diplomates prendraient plutôt le pas sur les hommes d'action. L'époque serait aux tables rondes et à la détente. Hein ? Qu'est-ce que t'en penses ?
Il est pas long.
Voilà, c'est le début de la réconciliation et d'une autre scène absolument mythique où ils vont arroser leur réconciliation avec un torboyau. Torboyau qui n'est pas à piquer des vers. Alors, en l'occurrence, j'aurais pu introduire autrement. Donc, il y a une fête, en fait. Donc,
on l'entend derrière.
Voilà, chez le Mexicain qui est donc décédé. C'est Patricia qui reçoit avec son Louis, c'est ça, hein ? Non, pardon, Louis, c'est le Mexicain avec son amoureux
Antoine,
qui est joué par Claude Riche. Et Et voilà, et donc les Wolfoni font une petite visite à nos héros. Allez, dans les quelques minutes qui nous restent, pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est un chef-d'œuvre ? C'est parce que comme ça fait partie du patrimoine français, c'est comme ça, ou c'est parce que ça a été tourné à Montauban, Louis-Marie ?
Non, ça, en plus, ça a été même pas tourné à Montauban.
Non, pardon, parce qu'il est de Montauban.
Je pense même pas que les scènes où il est censé être à Montauban aient été tournées à Montauban. Ils sont pas beaucoup sortis de Paris, là. Ils sortaient un peu parce que...
Il y a une réplique, d'ailleurs, dans le film, non, sur Montauban.
Mais... Bah oui, on devrait jamais quitter Montauban.
Voilà, c'est ça.
C'est ce que dit Fernand Naudin. Et en fait, Lautner expliquait volontiers que quand il tournait à l'époque, ils essayaient de tourner en dehors de Paris, comme ça, ils ne rentraient pas chez eux le soir et ils pouvaient faire la fête tout le temps. Mais ça, c'est un détail que racontait ce vieux monsieur quand j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Mais pourquoi c'est un chef-d'œuvre ? Parce qu'on l'a abordé tout à l'heure en disant que c'est un contre-pied à une autre façon de faire du cinéma. Et même le sujet du film lui-même est un contre-pied aussi. Parce que finalement, ces truands-là, ces gangsters, plutôt pathétiques même, hein, bah, c'est quoi ? C'est les représentants d'un cinéma poussiéreux, le cinéma de papa, qui ne comprend pas les jeunes. Ceux justement incarnés par Patricia et son petit ami qui font la fête, qui eux vont voir les films de la nouvelle vague. Voilà, c'est ça, il y a ça qui joue. Et alors, le personnage.
Il y a le contexte, comme on dit.
Il y a le contexte. Et il y a ce personnage, Fernand Naudin, personnage incarné par Lino Ventura, bah, lui, qu'est-ce qu'il est Il est un peu antisexuel, hein, c'est pas terrible, quand même, sa façon d'aborder, de voir comment doivent se comporter les jeunes. Et puis, les gangsters, les Wolfoni, c'est les gangsters de pacotille, quoi.
Oui.
Paul Dima.
Fernand Naudin, c'est aussi le bon père de famille classique qui dit « Moi, je vais la redresser, cette
Patricia. »
Il n'y arrivera pas.
et en fait, il est comme tout bon père de famille, il tombe sur plus fort que lui, quoi.
Bref, un film à voir. Les Tontons Fager de Georges Lautner, voilà, avec donc des dialogues d'Audiard. On fait une deuxième pause et puis on va parler d'un troisième film, Cria Cuervos, donc film espagnol comme son nom l'indique. Cette deuxième pause musicale, ça sera aussi un extrait, c'est pas le plus connu que j'ai choisi, donc de la musique du film Les Tontons Flingueurs.
Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est pour rappel donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin pour ceux qui nous rejoindraient en ce vendredi matin. Nos deux messieurs cinéma pour cette émission donc mensuelle, Paul Dima, donc animateur de retraite cinéma, intervenant cinéma pardon au sein des Cotopaïs et Centre Jésuite dans le Sud-Ouest, et Louis-Marie Soler, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse, Radio Présence, mercredi 19h, à ne pas rater. Troisième film, donc vous avez choisi Cría Cuervos. Film espagnol, donc. Je vais quand même... on peut écouter un morceau de bande-annonce, mais comme c'est de l'espagnol sous-titré en français, ça ne va pas vous aider à rentrer dans l'histoire. Donc je commence à raconter le début, et puis vous direz le reste. Le personnage principal est une petite Anna de 9 ans, qui est une enfant, on va dire, beaucoup plus mûre que son âge, mais elle a des raisons pour cela. Sa mère est décédée, son père succombe aussi au début du film. Voilà, elle croise la maîtresse de son père qui quitte le foyer, et elle retrouve son père mort. Bref, la mort rôde, la mort entoure cet enfant, et c'est aussi la mort vue, on va dire, à hauteur d'enfant. On écoute la bande-annonce, ou moins un morceau.
Contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar, ¿por qué te vas?
Alors la bande-annonce, donc c'est, on voit défiler des images avec cette musique en fond, si je ne me trompe pas. Ça nous aide pas beaucoup, mais ça nous met quand même dans l'ambiance. Cette musique est devenue un tube. Vous nous en parlez.
Ça a été un tube, oui.
Voilà, donc c'est un film sorti en 1976 de Carlos Saura. L'histoire, est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus? Cet enfant Anna, tout le film se passe à l'intérieur d'une maison. Il y a vraiment un sentiment quand même d'étouffement. Elle a des sœurs, et puis ils sont entourés par le malheur, hein, on peut dire ça, Louis-Marie. Hein.
Ah bah oui.
Le malheur noir. Hein.
C'est trois sœurs qui vivent dans cette maison, une grande demeure à madrilène, donc on est dans la capitale de l'Espagne. Le père était militaire de carrière, et c'est leur tante qui les élève. Et ils sont là aussi avec la grand-mère qui est paralysique et mutique. Ça ne réjouit pas donc l'ambiance dans...
Ça donne l'ambiance, oui.
Ouais, dans la maison. Et donc, cet enfant qu'on va suivre, donc Anna, elle étouffe, vous l'avez dit, et elle se réfugie dans ses rêves et ses souvenirs. C'est pour ça qu'on va tantôt voir dans le film, Carlos Saura joue avec la temporalité, donc tantôt on va voir dans le film sa mère, incarné par Géraldine Chaplin,
qui est décédée,
qui était à l'époque la muse de Carlos Saura, ça c'est pour la petite histoire. Tantôt on la voit elle adulte, qui est aussi incarnée par la même actrice.
Et qui raconte son histoire,
voilà. Donc on est dans le passé, dans le présent, le futur. Enfin, je me répète, mais Carlos Saura joue avec la temporalité pour montrer ce que ressent cet enfant, Anna, et tout va tourner autour d'elle.
Alors, les critiques, je crois que c'est des critiques au moment de la sortie. C'est presque un ordre, fait un succès de la nouvelle sortie du film le plus subtil au monde sur l'enfance. Libération, il est des chefs-d'œuvre qui achèvent leur auteur. Cría Cuervos, le beau film de Carlos Saura, en fait probablement partie. Vous nous expliquerez peut-être pourquoi. On pourrait ajouter Le Journal du Dimanche, il fait partie de ces chefs-d'œuvre qu'on voit une fois mais qu'on n'oublie pas. On pourrait dire un mot, Paul Dima, c'est peut-être comme ça que je vais vous lancer. Cría Cuervos, ça veut dire aussi. Ça fait référence à un proverbe espagnol.
Cría cuervos y te sacarán los ojos.
Ce qui veut dire élève des corbeaux, ils t'arracheront les yeux. Pourquoi ce titre et qu'est-ce que ça nous dit du sens du film déjà?
Alors, il y a plusieurs lectures de ce proverbe. Le contexte, c'est quand même.
On peut le répéter. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Élève des corbeaux, ils t'arracheront les yeux.
Ils t'arracheront les yeux. C'est en résonance avec le contexte historique de l'époque où se passe l'histoire, de l'époque quand elle est petite fille, donc le décès de sa mère, ensuite le décès de son père militaire. C'est la période du franquisme qui se termine et on n'a pas le droit de critiquer le régime, évidemment. Et Carlos Saura s'ingénie, enfin trouve l'idée géniale, de porter dans le regard de cette petite fille devenue femme et qui relit son histoire, cette Espagne qu'on essaie de museler et d'enfermer. C'est une des lectures possibles.
Espagne asphyxiante, en l'occurrence. C'est ce que donne à voir le film, en tout cas.
Asphyxiée, enfin sous contrôle. Et cette petite fille est perdue dans ce monde-là. Elle voit toutes les turpitudes qui se passent dans sa maison. Sa mère qui meurt d'être abandonnée, d'une certaine façon, parce que son père ne s'occupe pas d'elle.
Il faut dire que son père est volage.
Non seulement il est volage,
mais... Qui n'aime pas sa femme.
Voilà.
Et qui la laisse enfermer dans la maison avec ses filles.
Fille voit la maîtresse de son père qui était partiellement déshabillée, la chambre du père, le père qui meurt. Voilà. Et elle a des grands yeux noirs et elle ne comprend pas ce qui se passe, sinon que ce qui se passe est incompréhensible.
D'autant qu'elle croit qu'elle l'a tué lui-même.
Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'autant qu'elle pense qu'elle l'a empoisonné.
Parce qu'elle lui a donné juste un verre de bicarbonate de soude.
Oui, mais elle pense que le bicarbonate est du poison.
Et du poison. Et donc, c'était pour elle venger sa mère.
Elle va même le proposer à sa grand-mère, ça dit quand même l'ambiance.
Et elle va le proposer à sa grand-mère.
Bref.
Qui n'en meurt pas.
Alors ça, c'est le contexte donc, politique, ça aide quand même grandement à rentrer dans le film que de le savoir. Mais vous aviez l'air de laisser entendre que ce proverbe « élève des corbeaux, ils t'arracheront les yeux », on pouvait le lire aussi autrement.
Alors, d'un point de vue politique, c'est tous ceux qui ont été élevés par le franquisme, enfin sous le régime franquiste, ils vont arracher les yeux qu'on a voulu fermer. Voilà. Il y a une autre lecture qui est plus d'ordre, sans dire forcément psychanalytique, c'est le pouvoir aussi de l'imaginaire de l'enfant. Comme ce monde est trop dur pour elle et incompréhensible, elle va l'imaginer. En fermant les yeux, elle revoit sa mère qui vient la voir, alors qu'elle est morte, hein, sa mère.
Il y a un grand amour entre la mère et la fille, par contre.
Oui,
très grand amour.
Presque fusionnel. Enfin, elle fait corps avec sa mère pour la défendre de son père qui vraiment la maltraite, enfin la déconsidère complètement. Il l'enferme et lui peut tout se permettre parce qu'il est l'homme de pouvoir et c'est lui qui fait régner l'ordre.
Paul disait que justement Carlos Saura usait de métaphores parce qu'à l'époque tourner des films c'était très compliqué en Espagne, la censure était sévère et on peut aller jusqu'à penser que le père est l'incarnation même du franquisme alors que la mère est celle de la République.
Absolument.
Alors Louis-Marie, c'est pour ça que Libération dit, quand il est sorti, a dit « Il est des chefs-d'œuvre qui achèvent leur auteur. Cria Cuervos, le beau film de Carlos Saura en fait probablement partie. » C'est ce qu'on entendait à l'époque.
C'est-à-dire que le film est sorti au moment idoine, impeccable. C'est en 75-76. 75, juste Caudillo, c'est comme ça, le chef suprême, Francisco Franco, venait de mourir après 40 ans de dictature, et deux ans plus tard, c'était Juan Carlos qui accédait au trône, puisque c'est un roi qui lui a succédé, qui a succédé à Franco, et il est vrai que l'étau s'est desserré pour les Espagnols à ce moment-là, quand même.
Alors c'est un film qui a été largement primé, hein, 1976, Festival de Cannes, Grand Prix du jury, même s'il a été ex-aequo avec un autre, César en 1977 du meilleur film étranger, 1978 au Golden Globe meilleur film étranger. Bref, c'est presque un grand chelem. Hein.
C'est le film de Carlos Saura. C'est le film qui a marqué la carrière de Carlos Saura. D'ailleurs, après ce film, il s'est tourné vers un autre univers, vers la danse, vers le flamenco. Il a changé complètement d'optique et de sujet dans ses films.
C'était plus le même contexte.
C'était plus pareil. Donc il n'avait plus cette nécessité d'avoir recours à ces images pour dénoncer une situation affreuse, étouffante, comme l'a souligné Paul, pour le peuple espagnol.
Pour finir peut-être, à moins que vous ayez autre chose à proposer, pourquoi c'est un très beau film ? Moi j'avoue, je ne veux pas torpiller votre film, mais c'est vrai que quand on n'a pas tout le contexte en tête, ça peut être difficile de rentrer dedans. Donc là, les auditeurs l'auront. C'est un film, faut l'encaisser. Hein. Quand semble-t-il, le réalisateur disait que c'était une manière aussi de montrer la mort côté enfant, il y a quand même une maturité et une forme de désespoir, moi j'ai trouvé dans le regard fixe de cette petite fille. Elle est complètement, elle donne l'impression d'être complètement désabusée sur le monde adulte. C'est un film dur,
oui,
très dur.
Il y a de quoi. Elle voit son père courtiser la femme de ménage. Elle voit
la femme de
comment
ménage raconter les frasques de son père presque devant la petite
voilà,
fille.
Oui, etc. Ouais. Enfin, tout est sordide. Enfin, dans cette famille qui apparemment est remarquable de rectitude et de tout ça. Et tout ça, c'est du trompe-l'œil. C'est pourri de l'intérieur. Et c'est un film qui est difficile aussi à comprendre parce que le jeu sur la temporalité, on voit la petite fille, on voit sa maman, son père, et on voit la petite fille devenue adulte qui est la même actrice que celle qui joue la maman et qui joue la petite fille devenue grande.
Oui.
Et
c'est un peu déroutant.
Et c'est un peu déroutant. Mais en même temps, ça oblige à faire un travail d'interprétation, de compréhension qui est très subtil, mais très remarquable.
Il y a quand même, et il faut le souligner, le dernier plan du film est un très beau cri d'espoir.
Ah oui.
Quand on voit ces trois enfants, ces trois sœurs partir à l'école, avec cette musique, celle qu'on a entendue, et dont les paroles sont importantes, puisque dans ce qui se dit, je vais pas vous le dire en français... Aujourd'hui, à ma fenêtre brille le soleil et mon cœur s'attriste en contemplant la ville parce que tu pars. Et voilà, c'est tout est là, tout est dans ce texte, dans ces enfants qui s'en vont. Et il faut bien avouer que le film, lui, restera, on peut dire un chef-d'œuvre. En tout cas, le chef-d'œuvre de Carlos Saura et du cinéma espagnol, de ce cinéma qu'on cherchait à bâillonner, qu'on n'a pas réussi à bâillonner et qui est devenu encore plus éclatant après, puisque s'ouvrait une période beaucoup plus facile pour le cinéma espagnol.
On va écouter juste encore un petit morceau de la bande-annonce de ce film, comme ça va nous remettre dans l'ambiance et puis on conclura cette émission.
Desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás junto a la estación.
Voilà, merci messieurs pour cette émission Vivante Église. Donc, à voir Une vie cachée de Terrence Malick. Ça n'est plus à l'écran, vous me disiez, mais il va falloir se débrouiller pour le voir d'une manière ou d'une autre. Les Tontons Flingueurs, Facile à trouver, de Georges Lautner. Et donc, Cri a Cuervos, ce film et cette musique. Carlos Saura, un grand merci à vous. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.